Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons dans le sillage des premiers navigateurs français en Australie et en Tasmanie. Nous sommes en compagnie de Bertrand Daugeron et de John Westsubi. En ce temps-là, il y a un peu plus de deux siècles, l'Australie s'appelait encore Nouvelle-Hollande. C'était un morceau de terre incertain qui figurait sur les cartes en pointillé, car longtemps on a cru qu'il existait un énorme continent austral qui occuperait presque toute la moitié sud du globe et qui était supposé contrebalancer la masse territoriale des continents nord. Et puis, quand ce continent en grande partie imaginaire s'est volatilisé ou réduit, notamment lors des voyages de Cook, qui a balayé donc cette hypothèse de la Terra Australis, on ne savait plus très bien à quoi pouvaient ressembler donc ces terres semées dans le grand bleu du Pacifique aux antipodes. James Cook, en passant par là, avait également manifesté la présence anglaise dans ces parages de l'Australie et de la Tasmanie, qui du coup, ces parages, ont attiré de plus en plus les Français au tournant du 19e siècle, car les Français voyaient bien qu'une partie du monde était en train de leur échapper. D'où une série d'expéditions extraordinairement aventureuses et très oubliées, celle de Marion Dufresne en 1772, on connaît celle de La Pérouse, mais ensuite il y aura celle d'Entrecasteaux, puis de Baudin. Baudin, le voyageur du premier consul, qui est parti en 1802 pour un incroyable périple de 2 ans dont il ne reviendra pas. Une expédition d'ailleurs qui est ressuscitée par une exposition qui est ouverte depuis quelques jours et qui va se tenir jusqu'en juillet à l'ambassade d'Australie. Une exposition John Westsubi que vous êtes venu présenter il y a quelques jours à Paris.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université d'Adélaïde, professeur au département français.
Oui.
Et ces expéditions françaises vous intéressent tout particulièrement. Vous en êtes l'expert.
L'expert, c'est beaucoup dire, mais ça m'intéresse bien sûr et ça me donne la possibilité de montrer aux Australiens que notre histoire européenne, si on peut dire, ne comporte pas que des Anglais.
Voilà. Alors, ce sont des expéditions qui ont un apport scientifique. Hein. On est donc au temps des Lumières. Il y a les dessins de Le Sueur qu'on peut voir en ce moment. Mais ce qui va surtout nous intéresser dans la demi-heure qui suit, c'est la rencontre. La rencontre avec, puisqu'elles sont très bien documentées, ces rencontres avec les habitants du sud de l'Australie et de la Tasmanie, des dessins extraordinaires de un peu de Le Sueur et beaucoup de petits qui s'intéressent plus aux personnes de cette terre inconnue. Et on sait bien qu'aujourd'hui, sur ces rencontres du bout du monde, on cherche à poser un regard nouveau. Et c'est ce que vous faites aussi, Bertrand Daugeron. J'avais remarqué il y a ça un petit peu plus d'un an, votre livre tout à fait passionnant, À la recherche de l'espérance, revisiter la rencontre des aborigènes tasmaniens avec les Français. Donc revisiter avec un nouveau regard et en allant sur le terrain.
Oui, un nouveau regard parce que ce travail d'archives que l'on fréquente depuis plusieurs dizaines d'années, australien ou français, est fragmentaire et a besoin d'être synchronisé, d'être réaccordé, réagencé. Et aller sur les lieux et coordonner ces différents journaux de bord qui sont épars, etc., les relire sur place permet presque une enquête, une reconstitution. Et là, les choses prennent un sens tout différent. C'est-à-dire que le récit devient polyphonique, qu'on a ses dessins d'un côté, ses cartes de l'autre, et c'est ce que je propose au lecteur, c'est que ce message effacé, celui de la rencontre, émerge. Parce que même si les sources sont principalement, exclusivement européennes, la rencontre est tellement forte qu'elle reste quelque part dans le texte. Et il faut aller la chercher, écouter bien l'oreille, et on entend presque le murmure des bruits, des voix sur la plage.
Alors, John Wasubi, comme ces rencontres ont quand même eu des suites tragiques, et vous êtes Australien, et on sait que l'Australie a quand même un surmoi un petit peu difficile par rapport à ses débuts et par rapport à l'éradication partielle, importante des peuples aborigènes, spoliation de territoire et même différents massacres. Est-ce qu'un chercheur comme vous peut aujourd'hui travailler librement sur ces sujets ?
Librement, oui, dans un sens, intellectuellement, il n'y a pas de sujet tabou. Cela dit, il faut y aller avec d'infinies précautions, parce que il y a des sensibilités qui sont encore très très vives dans certaines communautés plus que d'autres, et il faut toujours se préparer à être à l'écoute d'abord, et à prendre des gants de velours pour commencer. Afin d'avancer d'une façon intéressante, parce que il faut avancer. Donc il n'y a pas de sujet tabou, on peut travailler sur ces questions-là, mais évidemment, étant donné l'histoire très difficile qui est gardée dans les cœurs des communautés, il faut toujours prendre beaucoup de précautions.
Alors dans les communautés aborigènes, donc du continent australien, et particulièrement dans les communautés de Tasmanie, qui d'ailleurs en tant que telles n'existent plus, puisque existe-t-il encore des autochtones de Tasmanie ? Je vois que ça soulève une question. Puisque...
Oui. Oui, je vais te laisser à Bertrand le soin
Bertrand
de répondre.
Parce que ça a été l'objet d'un génocide, la Tasmanie.
D'une histoire très dure, le choc microbien et une série d'événements qu'on appelle les Black Wars. Mais aujourd'hui, oui, il existe une communauté de descendance aborigène qui descend de 10 femmes. 10 femmes unies de gré, mais aussi de force, à des forçats ou à des hommes libres anglais. Et cette communauté existe bien, et elle entend bien le savoir, et maîtrise tout à fait son arbre généalogique, sait reconnaître ses ascendants, et... Oui, bien sûr.
D'où l'intérêt de ressortir quand même ces textes oubliés, pour aussi faire le détour par le récit européen,
oui.
Pour restaurer la mémoire.
Toute cette documentation est capitale pour les communautés aborigènes, en Tasmanie en particulier, parce que les dessins, les récits leur permettent de renouer avec des aspects de leur culture qu'ils ont pu oublier. On peut en donner 2 ou 3 exemples. Il y a une sorte de canoë qu'ils avaient l'habitude de faire, qui est très bien documenté dans les dessins de Petit et de Le Sueur. Et
donc l'expédition Baudin.
Dans l'expédition Baudin, excusez-moi.
1800, et 1803.
Les derniers, c'est même pas des canoës, mais des maquettes datées des années 1840. Eh bien, en 2007, les descendants, donc la communauté aborigène actuelle, a pu refaire un canoë, et c'était un grand événement pour la communauté. Et maintenant, ils en sont à leur 2e canoë. C'est donc une tradition qui se renouvelle grâce à cette documentation.
ces étranges terres australes. Aujourd'hui, nous partons dans le sillage des navigateurs français qui ont été explorer le sud de l'Australie et la Tasmanie à la jointure du 18e et du 19e siècle. Des expéditions souvent oubliées, vraiment sorties des écrans radars. On ne se souvient que de la Pérouse. Alors, on va déjà aborder celle du premier dans l'histoire. On va glisser très vite sur Marion Dufresne à l'époque d'Ancien Régime et on va aller tout de suite vers celle d'Entrecasteaux qui était censée chercher les traces de l'expédition La Pérouse qui avait disparu. On est en 1792-93 et voilà que Entrecasteaux débarque en Tasmanie. Et c'est une expédition absolument passionnante justement parce qu'elle documente de ses peuples du sud de l'Australie et de la Tasmanie, John Westsubi, Bertrand Daugeron. Donc ces textes vous sont extrêmement familiers. Il parle, Entrecasteaux, de, je cite, « ces hommes si voisins de la nature et dont la franchise et la bonté contrastent si fort avec les vices de l'état de civilisation ». Donc c'est un regard rousseauiste en 1792. On peut dire ça, Bertrand Daugeron ?
En 1792, nous sommes en pleine révolution. Et si une société fait une révolution, c'est qu'elle pense, elle est corrompue. Ce sont des mots que je trouve dans les journaux de bord. Et elle a besoin de se renouveler. Et donc, renouveler son regard, renouveler sa conception de ce qu'est une société, elle regarde de côté, du côté de l'antique. Et elle regarde aussi, à un moment, du côté de l'exotique. Et le sauvage comme construction philosophique, oui, Rousseau est là. Eh bien là, mais la question rousseauiste se posera plutôt paradoxalement dans la question de la propriété lors des échanges d'objets avec les aborigènes.
C'est-à-dire qu'il y aura des malentendus ?
Il y a toujours un malentendu dans un échange de communication, mais un malentendu productif, c'est-à-dire que on a une société pré-industrielle, la nôtre, et on a une société de chasseurs-cueilleurs, la leur. Et malgré ces différentes conceptions, les choses ont une importance relative. Échanger est un support de communication. Les objets deviennent des ponts humains. Donc, lorsqu'on se voit, on échange beaucoup, et à un tel point que les Tasmaniens veulent presque tout, voir tout. Et le lendemain, les Français repassent et ne comprennent pas, parce que tout est resté sur la plage. Mais qui sont ces gens pour qui la propriété ne vaut rien ?
Alors ça va se passer comment en fait ? Il y aura des incompréhensions, on voit bien. Est-ce qu'il y aura de la violence dans ces premières rencontres Entrecasteaux ? Donc il s'appelle Bonny d'Entrecasteaux et donc 1792-93.
Pas des violences, non.
Mais non, pas cette fois-ci.
Non, pas cette fois-ci. Il y a quand même comme vient de le dire Bertrand, il y a des malentendus. Je me rappelle d'un incident où pour amuser les aborigènes, pour voir quelles sont leurs réactions, il fait jouer du violon. Mais le type qui jouait du violon dans le bateau ne jouait pas très très bien. Alors les aborigènes tenaient les oreilles, ils pensaient que c'était affreux. Ça, c'est une sorte de violence auditive, on peut dire, mais autrement non.
Ça a été cordial donc l'épisode Entrecasteaux. Bertrand Daugeron.
D'Entrecasteaux est resté pour plein de bonnes raisons près plusieurs semaines dans ce qui est devenu un détroit, et c'est une chose qui ne se fait pas dans les expéditions. Il est resté plusieurs longtemps. Il a bien vu des traces de passage, des traces de feu, mais il n'a jamais pu avoir l'initiative du contact. Et c'est la dernière semaine de son séjour, en février 93, que les aborigènes ont choisi, à leur initiative, d'aller voir les Français.
Alors, est-ce qu'il y a une arrière-pensée avec d'Entrecasteaux de mainmise de la France dans cette région, puisque Cook est arrivé, Sydney existe déjà, oui. Donc comme capitale, ça s'appelle Port Jackson, hein, je crois, oui. Donc ça y est, les Anglais sont là, est-ce que les Français veulent dire non, nous on veut aussi quelques ports, quelques comptoirs en Australie,
ouvertement, John Westsubi ? Oui, non, ces expéditions avaient des buts scientifiques. L'expédition d'Entrecasteaux, en fait, avait une double mission. La première mission, c'était de retrouver les traces de la Pérouse. La deuxième mission était vraiment scientifique, en fait, pour les hommes du muséum.
Inventaire du monde, quoi.
Oui, je veux dire que la recherche de la Pérouse, c'était un prétexte pour envoyer quelqu'un faire des recherches en histoire naturelle. Donc, il n'y avait pas de visée, nécessairement, mais bon. À cette époque, enfin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans le Pacifique, aucun voyage n'était innocent, politiquement parlant, enfin, parce que les Espagnols considéraient que le Pacifique, c'était leur chasse gardée. Ils voyaient d'un mauvais œil les Anglais commencer à naviguer sur leur territoire. Le ministre espagnol de la Marine a même dit, Galvez, un jour, que s'il avait eu les moyens de le faire, il aurait fait arrêter ce coup qui agaçait Madrid avec ses explorations. Bref, chaque incursion, entre guillemets, dans le Pacifique attirait les regards des autres nations européennes. Et évidemment, les Français qui viennent fouiller un petit peu dans les eaux de l'Australie, pour les Anglais qui sont là depuis 5 ans, en 1793, ce n'est pas sans intérêt, je veux dire.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Ces étranges terres australes, nous voyageons aujourd'hui dans le sillage des navires français partis au cœur du Pacifique en direction de l'Australie, en plus particulièrement du sud de l'Australie, vers la Tasmanie, donc à la fin du XVIIIe siècle. Nous avons évoqué l'expédition d'Entrecasteaux et maintenant voici l'expédition Baudin, très importante, 1800-1803, une expédition très oubliée dans l'historiographie française, donc au temps du consulat. Et d'ailleurs, il va y avoir une partie du sud de l'Australie qui, à la suite de cette expédition, s'appelle Napoleon's Land, hein, la terre de Napoléon. C'est resté ça, John Wesley ?
Dans les mémoires, mais pas sur les cartes officielles.
Ah, c'est pas sur la carte. Non. Ah, d'accord.
Non, parce qu'en fait, c'était une méchanceté de la part de François Perron, le zoologiste qui a écrit le récit officiel du voyage, et du cartographe Louis Freycinet, qui ont travaillé donc main dans la main pour écrire l'histoire et publier les cartes de cette expédition, et qui était très bien au courant des découvertes faites par les Anglais dans la même région, mais qui, dans leur publication, ont négligé, on va dire, entre guillemets, c'est toute la partie de la côte qui avait été découverte par les Anglais.
Pour assurer une sorte de présence française officielle, planter le drapeau,
fait.
Quoi.
Voilà. Et ils ont baptisé au les sud, deux alors. Énormes golfes au sud de l'Australie méridionale actuelle, le golfe Bonaparte et le golfe Joséphine. Alors, de l'autre côté de la Manche, ça n'a pas été bien reçu. Et dans la deuxième édition du voyage, en 1824, Louis Freycinet a dû se rétracter et reconnaître qu'ils avaient fait une faute.
Alors, il y a évidemment, on le disait tout à l'heure, des enjeux géopolitiques, c'est clair, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt la rencontre entre les hommes, entre les populations. Et là, ça va être extraordinairement riche, l'expédition Baudin, puisque l'exposition qui est proposée en ce moment à l'ambassade d'Australie, et qui va d'ailleurs partir voyager de ville en ville en Australie, montre une très riche documentation, et notamment faite par deux artistes de très grand talent, Le Sueur et Petit.
Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est la première expédition scientifique à partir dans l'hémisphère sud, partout ailleurs d'ailleurs, munie d'instructions spécifiques et de conseils, de consignes pour les observations des peuples indigènes. Évidemment, pendant tous les autres voyages précédents, on a fait des observations, des dessins, mais là...
Il n'y avait pas une mission d'observation,
si.
C'était plutôt les plantes
oui, non,
pour les précédents.
Ouais, pour d'accord. Les précédents. Mais ici, vous
c'était
avez...
C'était plutôt les richesses qu'on cherchait
oui.
Documenter.
Toutes sortes de choses, mais... mais là, avec l'expédition Baudin, nous avons des instructions. Il y avait à Paris une nouvelle société, la Société des observateurs de l'homme, qui avait comme membre des gens comme Joseph-Marie de Gérandeau, qui avait rédigé des instructions pour les voyageurs concernant les observations à faire. Et lui, il s'intéressait à la culture.
Donc il faut documenter, il faut dessiner,
il faut
écrire des rapports.
Oui, il faut...
C'est de l'ethnographie avant la lettre.
Oui, tout à fait. De l'autre côté, vous avez Cuvier, au muséum, l'anatomiste, qui était dans la logique de la physique, des mesures de force, etc. Donc vous avez deux types d'instructions en compétition.
Sciences dures et sciences molles.
Oui, on va dire.
Mais le résultat va être très important, d'après ce qu'on envoie à l'ambassade d'Australie, Bertrand Daugeron, notamment concernant la Tasmanie.
Le résultat d'une science de l'homme.
La collecte, oui.
Non, bah c'est...
La collecte d'informations.
Les dessins de petites lecueurs sont des trésors.
Magnifiques, ouais.
Des trésors retrouvés, perdus, d'un très long naufrage, d'un trop trop long naufrage. Et il n'y a pas eu de réception de différentes expéditions, ou très peu, dès leur retour, une sorte d'annulation. La société des observateurs de l'homme avait un projet de musée pour réunir différents artefacts, enfin on va dire des objets aujourd'hui de type ethnographique. Ce projet a échoué, de même pour réunir l'expédition d'Entrecasteaux. Donc il y a tout un effacement, et même dans... Juste un exemple, pour ces dessins de petits lecueurs, ces dessins de personnes où on a un visage vie très fort, un regard, donc il faut reconstituer toute la relation, tout le temps, etc. etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un projet d'histoire naturelle de l'homme, des peuples, qui a été complètement effacé. Donc finalement, ce moment 1800 dans cette science de l'homme en formation a été une occasion manquée, et lors du retour de Baudin, quelque chose s'est passé, c'est fini.
Alors ces merveilleux documents qu'on peut voir en ce moment à l'ambassade d'Australie, il faut y aller vite parce qu'après ils vont partir pour l'Australie.
Cependant 2 ans.
Oui, alors c'est une moisson très importante. Et elle a voyagé comment après, puisqu'on dit qu'elle n'a pas été tellement diffusée, qu'elle est restée dans des caisses. Alors c'est resté où? Dans des archives cachées, occultées?
Les objets d'ethnographie.
Oui. C'était où tout ça?
Oh, bah,
c'était au Havre,
une collection. Non, les objets, en fait, étaient destinés à la Malmaison. Oui,
au muséum, mais
muséum
la Malmaison,
et à la Malmaison.
Pardon.
Il n'y avait pas que des objets aborigènes d'Australie. Pendant le séjour à Sydney, l'explorateur George Bass a donné à Baudin beaucoup d'objets du Pacifique aussi. Donc,
ils sont allés aux Moluques, ils sont
oui.
Allés...
Mais toute cette collection a été dispersée par la suite. C'est encore une fois une très triste histoire, comme l'a dit Bertrand, de perte d'opportunités. Les dessins sont restés. Normalement, ils auraient dû être réintégrés au muséum, mais il s'est trouvé que pour la rédaction du récit officiel du voyage, Perron et son ami Le Sueur avaient pris beaucoup de documentation. Lorsque Perron est mort, Le Sueur, c'est une histoire vraiment franco-française, on peut dire. Le Sueur voulait continuer le récit, mais ça a été confié à Louis Freycinet. De dépit, Le Sueur part pour les États-Unis, où il reste pendant 20 ans, et il n'a jamais rendu la documentation qu'il avait.
Mais ça a été conservé.
Ça a été conservé.
D'où la possibilité qu'on a aujourd'hui de se régaler.
Oui, et c'est une chance parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Havre a été bombardé. Et un conservateur a eu la très bonne idée d'emmener cette collection et de la protéger.
De ces étonnantes expéditions françaises dans les terres australes à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, restent donc ses collections. Et puis reste aussi, John Wassoubi, dans votre pays, l'Australie, un certain nombre de toponymes. Et c'est très surprenant parce que quand on se balade en Australie, on voit tout d'un coup apparaître des noms français. Alors est-ce qu'il y a le Cap Le Sueur en particulier ? Il y a la péninsule, ça existe encore, la
oui.
péninsule Perron.
Tout à fait. Il y a le canal d'Entrecasteaux, il y a la péninsule Fraissinet. Pour dire, surtout, évidemment, dans les endroits que les Français ont visités et cartographiés, dans le sud-est de la Tasmanie, sur la côte sud de l'Australie et sur la côte occidentale aussi. Il reste beaucoup de noms. Et l'île de Craie, l'île des kangourous aujourd'hui, les Français ont appelé l'île de Craie, ce sont les Français qui en ont fait le tour, les premiers, et qui ont laissé des noms que les Australiens trouvent très difficiles à prononcer, comme le Cap du Couédic, la baie Gantôme, et compagnie. Donc, si les Français vont aller voir l'île des kangourous, il faut s'attendre à ce que les Australiens écorchent leur, leur toponyme.
Et pour vous, Australiens, John Wassoubi, ce sont des expéditions qui sont aussi chargées de beaucoup d'affect, en réalité, puisque... On m'a dit que lors de l'inauguration à l'ambassade d'Australie, il y avait eu quelques larmes.
En effet, c'est une partie de notre histoire, un des débuts de l'histoire européenne de notre pays. Et depuis un certain temps maintenant, les chercheurs montrent que le pays n'est pas seulement un pays anglo-saxon, qu'il y a des antécédents portugais, espagnols, hollandais et français. Et que la découverte et l'exploration de notre pays, c'est le fait de nombreuses expéditions d'hommes de courage qui sont venus à cette époque où il n'y avait pas de cartes, explorer nos terres.
Voilà. Et puis il y a ces chroniques de la vie aborigène, donc vous nous disiez tout à l'heure que ça permet de retrouver même un certain nombre de détails. Je signale juste un document extrêmement émouvant qu'on peut voir dans l'exposition à l'ambassade d'Australie, c'est une portée musicale. Il s'agit là d'une chanson, d'une musique aborigène qui est notée.
Oui, qui est notée.
Pas enregistrée, puisque on n'enregistre pas.
Ah non, mais c'est l'équivalent, on va dire. Pour les musicologues, on pensait que c'était assez limite, enfin d'un intérêt assez limité, parce qu'il n'y avait pas de notation. Mais au Muséum du Havre, il y a un petit carnet avec des observations sur le rythme, les crescendo, etc. Et c'est un document précieux.
Alors une masse de documents donc qui témoignent de ces premières rencontres ou en tout cas de ces rencontres du tout début au Muséum du Havre, donc qui détient les collections de dessins de Le Sueur et de Petit, sous la protection vigilante de Gabriel Baglione, qui a également conçu un très beau catalogue à l'occasion de l'exposition L'Autre, les naturels vus par l'Occident, qui a eu lieu il y a quelques années au Havre. Alors l'exposition L'œil et la main, Le Sueur et Petit, petit dessinateur de l'expédition Baudin, on peut la voir donc à l'ambassade d'Australie jusqu'au 30 août. Donc on va pouvoir la voir tout l'été. Bertrand Daugeron, votre précieux livre À la recherche de l'espérance, revisiter la rencontre des aborigènes tasmaniens avec les Français, c'était paru il y a un an et demi, deux ans, chez Ars Apodemica. Et vous avez en plus eu une expérience de terrain, hein, puisque vous êtes allé sur place. Et puis pour le terrain, je voudrais signaler également un beau livre qui est paru également il y a environ deux ans, un livre de photographe, L'Australie des explorateurs français, photo de Frédéric Mouchet, donc sur les traces de ces explorateurs, aux éditions Somogy. Ça s'appelle Terra Australis et c'est sur cette musique que se termine Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Alain Joubert, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque samedi avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Beaucoup d'informations sur notre page Tout un monde du site France Culture. France Culture vous attend maintenant, Vincent Charpentier. Bonsoir, Vincent.